Lettre 14. Suite de la lettre précédente. 13 avril. Vous serez très surpris, mon cher monsieur, de recevoir encore une lettre de Londres de la main de votre Evelina. Mais croyez-moi, ce n'est ni par ma faute ni pour mon bonheur que je suis encore en ville. Notre voyage a été différé par un accident aussi inattendu que désagréable. Nous fûmes hier soir au Fantoccini, où nous vîmes représenter par des marionnettes une petite comédie française et italienne. Le spectacle fut conduit avec la plus grande adresse et nous nous amusâmes tous mieux, à l'exception du capitaine qui a une antipathie déterminée pour tout ce qui n'est pas anglais. Tandis qu'en sortant nous attendions notre voiture, une grande femme, déjà sur l'âge, passa près de nous en s'écriant « Mon Dieu, que ferai-je ?»« Comment donc ce que vous ferez ?» lui dit le capitaine. « Ma foi, monsieur, lui répondit-elle, j'ai perdu ma société et je ne connais personne ici. » Il y avait un peu d'accent dans sa prononciation, cependant il était difficile de distinguer si elle était anglaise ou française. Elle était bien mise et paraissait tellement embarrassée que Madame Mirvan crut devoir proposer au capitaine de lui offrir ses services. « Mes services ? Eh, de tout cœur ! On n'a qu'à appeler un porte-flambeau pour lui chercher une voiture. » Il n'y eut pas moyen d'en trouver et il pleuvait à verse. « Mon Dieu ! S'écria de nouveau la dame, que vais-je devenir ? Je suis au désespoir !»« De grâce, mon cher monsieur, dit Madame Mirvan, « offrons-lui une place dans notre voiture. Elle est seule et étrangère. »« Elle n'en vaut pas mieux pour cela, peut-être. Et qui sait si ce n'est pas quelque coureuse ?»« Elle n'en a pas l'air, reprit Madame Mirvan, « et sa situation me fait pitié. Ce sera une bonne œuvre de la ramener chez elle. »« Vous aimez furieusement les nouvelles connaissances. Mais voyons premièrement si cela ne nous détourne pas de notre chemin. » Elle nous dit qu'elle demeurait dans la rue d'Oxford et, après quelques débats, le capitaine consentit, avec toute la fierté et toute la mauvaise grâce possible, à la faire monter dans notre voiture. Il nous prouva bientôt qu'il était résolu de lui faire payer cher cette complaisance. Il prit à tâche de lui chercher querelle, probablement pour la seule raison que cette dame était étrangère. Elle commença la conversation par nous raconter qu'elle n'était que depuis 2 jours en Angleterre et qu'elle était accompagnée de 2 Parisiens, que son équipage étant hors de ville, ces messieurs l'avaient quittée au sortir de la comédie pour se procurer une remise, et que, ne les ayant pas revus, elle craignait qu'ils ne se fussent égarés. « Et comment, dit le capitaine, avez-vous pu aller dans un endroit public sans un Anglais ?»« C'est parce que je ne connais personne à Londres. »« Eh bien, dans ce cas, vous ferez bien d'en partir vous-même. »« Parbleu, monsieur !» C'est bien ce que je me propose. Les Anglais me semblent tenir un peu de la brute et je vous proteste que je retournerai en France le plus tôt possible. Je ne suis nullement curieuse de vivre avec vous autres. Est-ce que la tête vous tourne? Croyez-vous, Madame la Française, que nous manquions de filous de toute nation pour nous vider les poches? On a nullement besoin de vous ici. Videz vos poches, monsieur! Je souhaite que personne ne fasse ce métier plus que moi. Et vos poches seront en pleine sûreté. Mais ce que je sais pour sûr, c'est qu'aucune nation au monde ne l'emporte sur les Anglais en grossièreté. Et dès que j'aurai vu 1 ou 2 personnes de qualité de ma connaissance, je repars pour la France. Allez-y, madame, et au diable aussi. C'est le voyage qui convient le plus aux Français et aux gens de qualité. Nous aurons soin, du moins, s'écria l'étrangère avec impétuosité. « De ne pas faire partie avec un de vos grossiers Anglais. »« Oh, ne craignez rien !» reprit tranquillement le capitaine. « Nous ne vous disputerons point le pas et nous vous donnons au diable en plein, vous et vos gens de qualité. » Miss Mirvan, voulant faire changer la conversation qui ne devenait que trop alarmante, adressa la parole au capitaine et lui dit « Monsieur, ce cocher va bien lentement. » « Patience, Marion, lui dit son père, il ira d'autant plus vite demain quand il nous mènera à Howard Grove. »« À Howard Grove ? » s'écria l'étrangère. « Et connaîtriez-vous Lady Howard ?»« Et qu'est-ce que cela vous fait ? Elle n'appartient pas au nombre de vos gens de qualité. »« Qui vous l'a dit ? J'en sais plus que vous. Et d'ailleurs, je doute fort qu'un homme aussi mal élevé que vous soit des connaissances de Lady Howard à moins pourtant que vous ne soyez son intendant. « On vous prendrait plutôt, répliqua le capitaine en fureur, pour sa blanchisseuse. » Ces paroles furent accompagnées d'un jurement horrible. « Oui, da, sa blanchisseuse, êtes-vous donc aveugle, monsieur? Avez-vous jamais vu une blanchisseuse mise de la sorte? Je suis, s'il vous plaît, d'un rang à valoir Lady Howard et tout aussi riche qu'elle. Je n'arrive en Angleterre que pour lui faire visite. » « Vous pouvez vous épargner cette peine. Elle a déjà assez de gueux à ses trousses. »« Des gueux, pas plus gueux que vous, monsieur. Vous êtes un vilain crasseux et je ne m'abaisserai plus à faire attention à vos propos. »« Vilain crasseux, dites-vous, et il la saisit par les deux poignets. « Écoutez, madame la grenouille, vous ferez bien de vous taire, sinon je vous fais sauter par la portière sans la moindre cérémonie et vous pourrez vous vautrer à votre aise jusqu'à ce que vos monsieur viennent vous chercher. » Il s'échauffait de plus en plus et madame Mirvan se disposait à calmer le capitaine. Mais la sortie que vous allez lire nous fermait la bouche. « Laissez-moi !» s'écria la dame. « Rustre que vous êtes !» Un bon cachot me rendra raison de vos indignes procédés. Vous verrez qui vous avez insulté. J'irai trouver M. Fielding, le juge de paix, et je vous montrerai que je suis une femme de condition. Je vous le montrerai ou je ne m'appelle pas Duval. » Je n'en entendis pas davantage. Interdite, effrayée et tremblante, je jetai un cri. « Juste ciel !» C'est la seule exclamation qui m'échappa involontairement et je tombai évanouie entre les bras de madame Mirvan. Mais tirons le voile sur une scène trop cruelle pour un cœur aussi compatissant que le vôtre. Il suffira de vous dire que nous fûmes convaincus que cette étrangère n'était d'autre que madame Duval, la grand-mère de votre Evelina. Ah, monsieur, reconnaître une aussi proche parente dans une personne qui s'était annoncée de la sorte! « Que deviendrais-je si vous n'étiez mon protecteur, mon ami, mon refuge ?» Mon émotion et la surprise de madame Mirvan me trahirent tout de suite. Mais je supprime l'accueil qu'elle me fit. « Vous seriez révolté de la dureté, de la grossièreté, pardonnez le terme, avec laquelle elle parla de cet événement malheureux dont vous m'avez informé avec tant de ménagement. Tous les malheurs d'une mère qui m'est chère, quoique je ne l'ai jamais vue, que je regrette sans l'avoir connue, toutes ces souffrances se retracèrent vivement à ma mémoire. Ah, mon cher monsieur, cette entrevue, une seule exceptée, est ce qui pouvait jamais m'arriver de plus terrible et de plus affligeant. Lorsque nous arrivâmes à son logement, elle me pria d'y monter avec elle, qu'elle se chargeait de me procurer une chambre à coucher. Alarmée et tremblante, je me tournai vers madame Mirvan. Cette excellente femme prit d'abord mon parti. « Ma fille, dit-elle à madame Duval, ne saurait quitter aussi brusquement sa jeune amie. Vous voudrez bien nous accorder quelques délais pour les préparer à cette séparation. » « Excusez, madame, répondit madame Duval, qui s'était adoucie un peu depuis qu'elle avait été reconnue. « Cet enfant ne saurait appartenir à Miss Mirvan d'aussi près qu'à moi. » « N'importe, madame, interrompit le capitaine, qui n'épousa ma querelle que dans le dessein de poursuivre sa pointe, malgré une espèce de raccommodement qui s'était fait entre lui et madame Duval. Mademoiselle a été envoyée chez nous, et nous ne sommes pas les maîtres, comme vous voyez, de vous la délivrer. » Je promis de lui rendre mes devoirs le lendemain, à l'heure qu'elle jugerait à propos de me fixer. Après quelques contestations, elle m'invita à déjeuner et nous retournâmes chez nous. Quelle malheureuse aventure ! Je n'ai pas fermé les yeux de toute la nuit. Mille fois, j'ai souhaité d'être restée à Berry Hill. Je ferai l'impossible pour rater mon retour. Et, une fois rendue à ce séjour d'une heureuse tranquillité, je ne l'abandonnerai plus pour tous les plaisirs de la terre. » Madame Mirvan eut la bonté de m'accompagner ce matin chez madame Duval. Le capitaine m'offrit aussi son bras, mais je le remerciai, car je craignais qu'on ne regardât sa présence comme une insulte. Madame Duval reçut madame Mirvan de très mauvaise grâce, mais elle m'accueillit avec toute la tendresse dont je la crois capable. Notre rencontre semble l'avoir beaucoup affectée. Elle en donna même une preuve. J'étais tombée évanouie dans ses bras, accablée par tant d'émotions que sa vue produisit naturellement sur moi. Elle témoigna beaucoup d'inquiétude, elle répandit des larmes et s'écria « Ah, puissais-je ne pas perdre pour la seconde fois ma pauvre fille ?» Cette marque de bonté m'aurait soulagée si Madame Duval eût excité toute mon indignation par les propos qu'elle se permit sur votre sujet, mon cher, mon généreux bienfaiteur. Mais la douleur et la colère firent bientôt place à un sentiment plus désagréable, à la crainte. Elle m'informa que le but de son voyage était de m'amener avec elle en France, qu'elle avait formé ce plan depuis l'instant qu'elle avait été instruite de ma naissance, découverte qu'elle n'avait faite que lorsque je pouvais être parvenue à l'âge de 12 ans, que M. Duval, qu'elle appelait le plus méchant des maris, l'avait empêché d'exécuter ce dessein plus tôt, que celui-ci étant mort depuis 3 mois, elle s'était hâtée de mettre ses affaires en ordre, après quoi son premier soin avait été de venir en Angleterre. Elle a déjà quitté le deuil, car elle a dit que personne ne sait ici depuis quand elle est veuve. Elle doit avoir été mariée fort jeune. J'ignore son âge, mais on ne lui donnerait guère plus de 50 ans. Elle s'habille richement et met beaucoup de rouge. Son visage offre encore les restes d'une grande beauté. Je ne sais quelle aurait été la fin de cette visite si le capitaine était venu prendre Madame Mirvan. Il persista à demander que je retournasse avec eux. Cet homme est devenu tout d'un coup de mes amis et il embrasse ma cause avec une chaleur qui me fait trembler. Madame Mirvan, toujours attentive à réparer les torts de son époux, apaisa Madame Duval en l'invitant poliment de venir prendre le thé et passer la soirée chez nous. C'est avec beaucoup de difficulté que le capitaine se prêta à différer son départ. Que nous restait-il à faire? Je ne pouvais pas décemment quitter Londres dans le moment même où Madame Duval m'y avait rencontré et y demeurer seule sous sa protection. C'est une idée que la bonté de Madame Mirvan avait su prévenir. Je craignais également que Madame Duval ne nous suivît à Howard Grove. Ainsi, il fallut nous résoudre à passer encore quelques jours et même toute une semaine en ville, quoique le capitaine ait déclaré que la vieille sorcière française, comme il lui plaît de la nommer, ne s'en trouverait pas mieux. Mon unique souhait est de retourner en sûreté à Berry Hill. Conseillé et protégé par vous, je n'y aurai plus rien à craindre. Adieu, mon très cher et très honoré monsieur. Je ne retrouverai le bonheur que chez vous. Lettre 15. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 14 avril. Je m'attendais d'un jour à l'autre, ma chère Evelina, à apprendre la nouvelle de votre départ de Londres et je différais de vous écrire jusqu'à ce que vous fussiez de retour à Howard Grove. Mais la lettre que je viens de recevoir et qui m'annonce l'arrivée de Madame Duval exige une prompte réponse. Son arrivée en Angleterre m'afflige et m'inquiète. Comme je vous ai plaint, mon enfant, en lisant le récit d'une rencontre si inattendue et aussi peu souhaitée. J'ai craint depuis longtemps cet événement et les suites qui devaient en résulter. Après vous avoir reconnu, il était naturel que Madame Duval dût vous réclamer. Je ne connais que trop bien ses intentions et j'ai prévu depuis bien des années les contestations dont nous sommes menacés actuellement. Quelque fâcheuses que soient les circonstances de cette affaire, il ne faut pas vous décourager, ma chère. Tant qu'il me restera un souffle de vie, il sera consacré à votre service et je prendrai de même tous les arrangements possibles pour établir solidement votre bonheur après ma mort. Persuadée de mon appui, reposez-vous sur ma tendresse et ne vous livrez pas aux craintes que Madame Duval pourrait chercher à vous inspirer. Conduisez-vous envers elle avec le respect et tous les égards qui sont dus à une aussi proche parente. Souvenez-vous qu'en oubliant son devoir, elle ne vous autorise pas à négliger le vôtre. Plus vous serez frappé des défauts d'autrui, plus il vous faudra, ma chère, vous étudier à en éviter jusqu'à l'ombre. Je vous recommande donc d'être sur vos gardes pour que nul manque d'attention, nulle froideur ne lui fasse soupçonner l'indépendance que je vous assure. Et lorsqu'elle aura fixé le temps de son départ, fiez-vous à moi du soin de m'opposer à ses projets. Je vous promets que vous ne la suivrez point. Mon refus est tout prêt et j'en fais mon affaire. Je sens à la vérité que cette tâche est difficile, mais il ne conviendrait pas, ou plutôt il serait impossible que vous vous en chargeassiez. Je suis peu surpris, du reste, de la mauvaise opinion qu'elle a de moi. Je plains plutôt son étrange aveuglement. Voyant l'impossibilité de colorer sa propre conduite, elle cherche des torts à tous ceux qui ont été intéressés aux événements malheureux qu'elle n'a que trop sujet de déplorer. C'est là la raison de son endurcissement, et elle doit, en quelque sorte, lui tenir lieu de justification. Rien ne pouvait m'être plus agréable que le désir que vous me témoignez de retourner à Berry Hill. Votre long séjour à Londres et la dissipation dans laquelle vous vivez me mettent mal à mon aise. Je ne prétends pas cependant que vous renonciez au parti auquel vous êtes invité. Madame Mirvan pourrait regarder votre refus comme une censure, et rien ne s'accorderait plus mal avec votre âge et avec les bontés que cette dame a pour vous. Je ne m'étendrai point sur ce sujet, et je me borne seulement à vous dire que je me réjouirai de tout mon cœur lorsque je vous saurai heureusement arrivé à Howard Grove. Je me flatte que cette lettre vous trouvera occupée des préparatifs du voyage. Je ne saurais assez vous remercier, ma chère Evelina, de tous les détails dans lesquels vous entrez. Continuez à m'écrire avec la même exactitude. Je serais malheureux si j'ignorais la moindre de vos actions. Que le genre de vie que vous menez actuellement est nouveau pour vous. Des bals, des spectacles, les opéras, des ridotto. Ah, mon enfant, comme vous perdrez au change à votre retour ici. Je tremble pour votre tranquillité future. Mais j'espère tout de l'excellence de votre cœur et de la vivacité naturelle de votre caractère. Je puis sans doute me dispenser de vous dire que j'aime bien mieux les fautes d'inexpérience qui vous échappèrent au bal que les grands airs dont vous avez voulu faire l'essai au ridotto. Mais l'embarras et l'humiliation que vous en avez souffert ne me permettent plus la moindre réprimande. Je suppose que vous ne verrez plus ce Sir Clement Willoughby. Ses propos et sa hardiesse m'ont excessivement choqué. D'un autre côté, j'ai été fort content de la bonté de cœur de Mylord Orville. Mais j'ose croire pourtant que, malgré sa complaisance, vous ne serez plus tenté de mettre son nom à l'épreuve. Que le ciel vous bénisse, ma chère enfant. Puissiez-vous ne jamais connaître l'infortune ni le vice. Puissiez-vous ne perdre jamais ce contentement que donne l'innocence, ce sentiment qui fait votre propre bonheur et qui contribue à la satisfaction de tous ceux qui vous connaissent. Arthur Villard. Lettre 16. Evelina à Monsieur Villard. Berry Hill, 15 avril. Madame Duval arriva hier sur les 5 heures pour prendre le thé et elle nous trouva encore à table. Que cela ne vous étonne point, on dîne ici fort tard. On lui fit ouvrir une autre chambre, et dès que le dessert fut apporté, on la pria d'entrer. Elle était accompagnée d'un Français, qu'elle présenta sous le nom de Monsieur Dubois. Madame Mirvan les reçut tous deux avec sa politesse ordinaire. Mais le capitaine témoigna de l'humeur, et, après un moment de silence, il lui dit d'un air sévère. « Qui vous a prié de nous amener ce damoiseau ?»« Je ne sors jamais sans lui, » répondit-elle. Après une seconde pause, le capitaine se tourna vers l'étranger et lui dit en anglais « Savez-vous bien, monsieur, que vous êtes le premier Français qui mette les pieds dans ma maison ?» Monsieur Dubois fit une révérence. Il ne parle pas l'anglais et ne l'entend guère, de sorte qu'il prit peut-être cette apostrophe pour un compliment. Madame Mirvan tâcha d'égayer la mauvaise humeur du capitaine. Mais il lui laissa faire tous les frais de la conversation et resta étendu dans son fauteuil sans dire un mot, excepté quand il trouvait l'occasion de lâcher quelques sarcasmes contre la nation française. Enfin, Madame Mirvan, voyant qu'elle ne réussirait point à nous faire passer une soirée agréable, proposa d'aller à Ranelagh. Madame Duval accepta la partie avec plaisir et, après quelques plaisanteries sur la dissipation des femmes, le capitaine y acquiesça également. Marie et moi nous montâmes pour nous habiller. Bientôt, on vint nous annoncer Sir Clement Willoughby. Ils étaient introduits sous prétexte de s'informer de notre santé et il se présenta avec l'air de familiarité d'une ancienne connaissance. L'accueil glacé qu'il reçut de la part du capitaine et de Madame Mirvan elle-même le décontenança cependant quelque peu. J'étais très embarrassée de reparaître devant cet homme, et je ne descendis que lorsqu'on vint m'appeler pour prendre le thé. Je le trouvai profondément engagé dans un entretien avec Madame Duval et le capitaine sur les mœurs françaises, sujet qui paraissait l'absorber au point qu'il ne fit pas attention à moi lorsque j'entrai dans la chambre. La conversation fut poussée avec chaleur. Le capitaine défendit la supériorité des Anglais à tous égards et Madame Duval s'opiniâtra à leur disputer jusqu'aux moindres avantages. Sir Clément employa à la fois les armes du raisonnement et du ridicule pour appuyer et renforcer tout ce qu'il plut au capitaine d'avancer. Il remarquait qu'en combattant Madame Duval, il ne manquerait pas de gagner l'amitié du maître de la maison. Et sa sagacité ne le servit que trop bien. Il eut bientôt lieu de se féliciter d'un succès complet. Dès qu'il me vit, il me salua respectueusement et me demanda si j'étais remise des fatigues du ridotto. Une légère inclination de tête fut toute ma réponse. J'étais encore honteuse du souvenir de cette aventure. Il retourna à la dispute et il la ménagea si bien, tantôt en agaçant Madame Duval, tantôt en soutenant les raisons du capitaine, que je ne pus m'empêcher d'admirer son talent en blâmant sa finesse. Madame Mirvan, craignant l'issue d'une querelle aussi échauffée, essaya plusieurs fois de détourner la conversation et elle y aurait peut-être réussi sans l'entremise de Sir Clément, qui, par son humeur satirique et mordante, avait entièrement captivé les bonnes grâces du capitaine. Madame Duval succomba sous les efforts réunis de ses deux adversaires. Elle tremblait de colère. Madame Mirvan nous annonça enfin, à ma grande satisfaction, qu'il était temps de partir. Sir Clément se leva pour prendre congé, mais le capitaine le pria très amicalement d'être des nôtres. Il répondit qu'il avait déjà pris des engagements, mais qu'il y renonçait pour avoir le plaisir de rester avec nous. Il y eut quelques petits démêlés avant qu'on s'accordât sur les places. Madame Mirvan offrit sa voiture à Madame Duval et elle proposa que les dames s'y missent ensemble. Cet arrangement ne fut point agréé par Madame Duval. Elle ne voulut point faire une aussi longue course sans cavalier et témoigna sa surprise qu'une dame polie pût faire une proposition si anglaise. Sir Clément Willoughby dit que sa voiture attendait à la porte et il pria qu'on voulût bien s'en servir. Enfin, il fut décidé qu'on chercherait une remise pour M. Dubois et Madame Duval. Le capitaine et, à sa sollicitation, Sir Clément, y montèrent avec eux. Madame, Miss Mirvan et moi, nous fîmes le chemin tranquillement à nous trois. Je ne doute pas qu'ils ne se soient querellés en route, car lorsque nous descendîmes à Ranelagh, ils parurent tous de mauvaise humeur. Nous fîmes nos parties. Tout le monde fuyait Madame Duval, excepté moi. Je ne la quittai pas un instant, et de peur que je ne lui échappasse, elle ne quitta pas mon bras de toute la soirée. Il y avait une foule prodigieuse, et sans les soins particuliers de Sir Clément Willoughby, nous eussions eu de la peine à nous procurer une loge avant qu'une moitié des assistants se fût retirée. On appelle loge des réduits voûtés qui sont destinés pour les parties de thé. Lorsque nous fûmes placés, quelques dames de la connaissance de Madame Mirvan s'arrêtèrent pour lui parler et l'engagèrent à faire avec elle le tour de la salle. Elle nous quitta, mais jugez quelle fut ma surprise quand je la vis revenir accompagnée du Lord Orville. Les dames continuèrent leur promenade et Madame Mirvan s'assit avec nous. Elle invita légèrement, mais avec politesse, le Lord à prendre le thé avec nous. Il accepta à ma grande confusion. Cette apparition me déconcerta de nouveau comme tout ce qui me rappelle le souvenir du malheureux ridotto. D'ailleurs, ma situation présente ajoutait encore à mon embarras. J'étais placée entre Madame Duval et Sir Clément, qui, je crois, n'étaient pas plus édifiés que moi de l'arrivée du Lord Orville. Les disputes éternelles continuaient toujours entre le capitaine et Madame Duval, et je rougissais d'appartenir à des gens aussi mal élevés. La pauvre Madame Mirvan et son aimable fille n'avaient pas sujet d'être plus contentes. Dès que Mylord Orville prit sa chaise, il se fit un silence général. Sa présence nous gêna tous, quoique par des motifs différents. J'ignore par quelle raison il avait recherché notre société. Peut-être n'était-ce que pour voir si j'avais encore inventé quelques nouveaux mensonges sur son compte. Ce fut Madame Duval qui rompit la première le silence. « Je suis choquée, dit-elle, de ce que vos dames portent des chapeaux dans une assemblée aussi élégante que Ranelagh. Je n'en vois pas l'utilité, cela leur donne un air commun. On ne connaît pas cette mode à Paris. » Sir Clément, J'avoue que je ne protège pas trop moi-même les chapeaux, et je suis fâchée que les dames aient adopté une mode qui était une vraie attrape. Car de deux choses l'une, ou le chapeau cache la beauté, ou il en fait chercher là où il n'y en a pas. Cette invention date sans doute d'une jeune coquette fantasque. Le capitaine. Dites plutôt de quelque vieille sorcière ridée qui avait encore envie de donner la chasse aux jeunes drôles. Madame Duval. Je ne connais pas vos usages en Angleterre, mais à Paris, l'âge n'empêche point une femme d'être considérée. Le capitaine. Est-ce que vous prétendez nous faire croire que là-bas, comme ici, on ne distingue pas les jeunes femmes des vieilles ? Madame Duval. Non, monsieur, la nation française est beaucoup trop polie pour faire ces sortes de distinctions. Le capitaine. Elle en est d'autant plus sotte. Sœur Clément. Veuille le ciel que, pour notre propre intérêt, nous puissions nous faire à une aussi heureuse facilité. Le capitaine. Voilà, monsieur, une ridicule prière que vous adressez au ciel. On voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à en faire souvent. Madame Duval. Eh bien, irez-vous commencer à présent une dispute de religion ? C'est encore là une de ces incongruités à l'anglaise dont on n'a pas d'idée à Paris. Sœur Clément. Je le crois bien, on n'a pas plus de religion que de politique. Le capitaine. Mais que sont-ils donc, ces gens-là ? Il faut que nous sachions cela, sœur Clément. Sœur Clément, la question du capitaine est serrée et j'espère que votre réponse, madame, ne nous laissera rien à désirer. Le capitaine. Allons, madame, vite au combat. Contez-nous cela tout de suite et ne perdez pas votre temps en préparatif. Madame Duval. Doucement, messieurs, je ne vous échappe point. Croyez-vous, après tout, que les Français manquent d'occupation ? Je vous promets qu'ils en ont de tout genre. Le capitaine. Encore, à quoi s'occupent-ils, ces fameux monsieur ? Citez-nous des fêtes. Jouent-ils ? Boivent-ils ? Sont-ils musiciens ? Sont-ils palefreniers ? Ou bien passent-ils leur temps à caresser les vieilles femmes ? Madame Duval. Oh, quant à cela, mais certes, je suis trop bonne de me donner la peine de répondre à ce tas de questions triviales. Ne me demandez plus rien. Puis, se tournant à mon grand chagrin vers Mylord Orville, elle lui dit « De grâce, monsieur, avez-vous jamais été à Paris ?» Il se contenta de lui faire une révérence. « Et comment vous y êtes-vous plu, monsieur ?» Il sourit à cette question que sœur Clément appellerait serrée. Et après avoir balancé un instant, il lui répondit néanmoins dans ces termes qui marquaient son approbation. « Je pensais bien, monsieur, que vous en seriez content, car vous avez tout à fait l'air d'un galant homme. Quant au capitaine et à cet autre, comment peuvent-ils juger de ce qu'ils ne connaissent pas ? Je suppose, du moins, monsieur, en s'adressant à sœur Clément, que vous n'êtes jamais sorti de votre pays. » « J'ai été seulement absent pendant 3 ans, répliqua sèchement sœur Clément. Madame Duval, cela m'étonne et je ne m'en serais pas douté. Je parie cependant que vous n'avez jamais voyagé qu'avec des Anglais. Le capitaine. Et avec qui donc, s'il vous plaît ? Voudriez-vous qu'à l'exemple d'une certaine nation qui n'est pas à 1000 lieues d'ici, il rougît de sa patrie pour que celle-ci eût eu à rougir ensuite de lui ? Madame Duval. Vous feriez fort bien vous-même de voyager. Le capitaine. Et à quel propos, je vous prie ? Quelle utilité m'en reviendrait-il ? Madame Duval. Une très réelle. On ferait de vous un tout autre homme. Le capitaine. Vous voudriez peut-être que j'apprisse encore à faire la cabriole, à m'habiller comme un singe, à barbiller votre baragouin français, que je poudrasse mes cheveux, que je me barbouillasse le visage de rouge, en un mot, que je prisse pour modèle vos dignes compatriotes. Madame Duval. Je voudrais, monsieur, que vous prissiez de meilleures manières et surtout que vous vous accoutumassiez à parler aux femmes un langage moins bourru et moins gothique. Monsieur, qui a été à Paris, en montrant Mylord Orville, vous dira combien vous y seriez mal reçu si vous vous avisiez de tenir des propos aussi grossiers. Il n'y a pas de perruquier, pas de savetier qui n'eût honte de vous. Le capitaine. Madame, je vous abandonne volontiers vos perruquiers et vos décrotteurs. Vous pouvez faire parade de leur mœurs tant qu'il vous plaira, et je suis fort aise que vous les goûtiez tant. Mais quant à moi, je vous dirai avec cette même franchise qui caractérise vos conseils que je ne suis pas habituée à la société de ces messieurs. « Mesdames et messieurs, interrompit Madame Mirvan, si vous ne prenez plus le thé, je vous invite à venir vous promener avec moi. » Nous nous levâmes sur le champ, Marie et moi, et Mylord Orville nous suivit. Les autres demeurèrent à disputer, et nous étions peut-être au bout de la salle avant qu'ils s'aperçussent de notre absence. Comme l'époux de Madame Mirvan avait eu tant de part à la contestation, Mylord Orville s'abstint de gloser sur cette scène indécente. Il n'en fut plus question le moment d'après, et la conversation prit enfin un ton d'honnêteté et de gaieté. Je m'y serais intéressée avec plaisir si j'avais pu oublier le rideau. Je savais que le lord était en droit de me reprocher une sottise. Je brûlais d'envie de lui faire mes excuses, et il me fut impossible de prendre sur moi de lui parler d'une aventure dans laquelle je m'étais exposée avec tant d'imprudence, bien plus... J'osais à peine ouvrir la bouche pendant tout le temps de notre promenade. J'étais sûre qu'il avait pris mauvaise opinion de moi. Cette idée me poursuivait sans cesse et me faisait craindre qu'il n'interprétât mal tout ce que j'aurais pu dire. Ainsi, au lieu de mettre à profit une conversation qui, dans d'autres circonstances, m'aurait été infiniment agréable, je demeurais muette, triste et honteuse. Que d'embarras ! Un seul faux pas ne m'a-t-il pas attirée ? Si jamais je retombais dans la même faute, oh, je mériterais la plus sévère punition. Nous fîmes 3 ou 4 fois le tour de la salle avant que le reste de notre société vînt nous joindre. Ils étaient toujours également querelleurs, ce qui engagea Madame Mirvan à se retirer sous prétexte d'être fatiguée. Elle en fit la proposition qui fut unanimement acceptée. Mylord Orville nous demanda nos ordres. Mais nos cavaliers ayant décliné ses offres, il se mit d'une autre coterie et nous entrâmes dans une antichambre pour attendre nos voitures. On convint que nous retournerions en ville de la manière dont nous étions partis pour Annelag. Madame Duval monta donc dans sa remise, mais elle n'y fut pas plus tôt qu'elle jeta un grand cri en sautant à terre et se plaignant qu'elle était mouillée de part en part. En effet, la voiture avait beaucoup souffert du mauvais temps qu'il avait fait toute la soirée, et la pluie y avait pénétré je ne sais comment. Madame Mirvan, Marie et moi, nous nous servîmes, comme auparavant, de l'équipage du capitaine. Dès qu'il fut instruit de cet accident, il eut la politesse de s'emparer de la place qui était vacante dans notre voiture, sans se mettre en peine de Madame Duval, ni de Monsieur Dubois. Sir Clément Wellougby avait sa voiture qui l'attendait. Je demandai d'abord la permission de céder ma place à Madame Duval et je fis mine de mettre pied à terre. Mais Madame Mirvan m'arrêta en remarquant que ce serait m'exposer à retourner seule en ville, soit avec l'étranger ou avec Sir Clément. « Ne vous inquiétez point de notre vieille, s'écria le capitaine. Elle est à l'épreuve de la pluie, je réponds d'elle. Et d'ailleurs, comme nous sommes tous anglais, elle ne risque pas de rencontrer pire que nous. » « Je ne prétends pas la protéger, répondit Madame Mirvan, mais comme elle appartient à notre parti, il serait de la dernière indécence de l'abandonner dans un tel embarras. » « Peste, reprit le capitaine, que l'accident de Madame Duval avait mis de fort bonne humeur. Si un de ces vilains anglais lui faisait quelque honnêteté, ce serait un coup de poignard pour elle. » Madame Mirvan l'emporta cependant, et nous descendîmes tous pour attendre que Madame Duval fût pourvue d'une autre voiture. Nous la trouvâmes avec Monsieur Dubois, au milieu des laquais, occupée à essuyer son négligé, qu'elle disait être d'une étoffe de lion d'un nouveau goût, et auquel elle s'intéressait beaucoup. Sir Clément Willoughby lui offrit son équipage, mais elle était trop piquée de ses railleries pour l'accepter. Nous attendîmes longtemps, sans qu'on pût se procurer une autre remise. Enfin, le capitaine consentit à accompagner Sir Clément et nous montâmes toutes quatre dans le carrosse de Madame Mirvan. Madame Duval demanda avec instance qu'on y accordât une petite place à Monsieur Dubois et le capitaine se prêta à cette complaisance seulement pour se débarrasser de cet étranger. Notre voiture prit le devant. Nous fûmes tous taciturnes et d'une humeur sociable, car les difficultés qu'exigeaient ces arrangements avaient ennuyé et fatigué tout le monde. Nous continuâmes notre chemin sans dire un mot, mais notre silence ne fut pas de longue durée. À peine étions-nous à 30 pas de Ranelagh que la voiture se brisa et nos voix se firent entendre toutes à la fois. En juger par nos cris, je suis sûre qu'il n'y eut personne qui ne nous crût blessés à mort. Le cocher arrêta, les domestiques accoururent à notre secours et nous descendîmes tous sains et saufs. Il faisait nuit et il pleuvait. Aussitôt que j'eus mis pied à terre, je me sentis soulevé par Sir Clément Willoughby. Il me demanda la permission de me secourir et, sans attendre ma réponse, il m'emporta dans ses bras à Ranelagh. Il s'informa avec beaucoup de zèle si j'étais blessé. Je l'assurai que je ne m'étais pas fait le moindre mal et je le priai de me quitter pour rejoindre le reste de notre société, dont j'étais très inquiète, puisque j'ignorais s'ils étaient tous échappés aussi heureusement que moi. Il me dit qu'il se croyait fort honoré de mes ordres et qu'il courait les exécuter, mais me voyant mouillé, il me pressa d'entrer dans une chambre chaude. Il n'écouta pas mes objections et me força à le suivre dans un appartement où nous trouvâmes un bon feu et quelques personnes qui attendaient leur voiture. Je pris une chaise et je le priai de nouveau de se retirer. Il s'en alla en effet, mais il reparut presque aussitôt. Il me dit qu'il pleuvait à verse et qu'il avait ordonné à ses domestiques d'aller au secours des Mirvan et de leur porter de mes nouvelles. J'étais très fâchée de ce qu'il n'avait pas pris cette peine lui-même. Mais comme je n'étais pas fort liée avec lui, je ne voulus pas lui en faire des reproches, ni l'engager malgré lui à cette complaisance. Il approcha sa chaise de la mienne, et m'ayant demandé une seconde fois comment je me portais, il ajouta à voix basse « Mise en ville me pardonnera si le désir de me justifier me porte à saisir cette occasion pour lui faire mes excuses de la conduite extravagante que j'ai tenue au rideau tôt. « Soyez persuadée, mademoiselle, que j'en ai un regret sincère, et s'il m'était permis de vous avouer ce qui m'a encouragée à... » Il s'arrêta, mais je ne lui fis point de réponse. Je me rappelais la conversation dont Miss Mirvan avait été témoin, et je supposais qu'il me parlerait de la part que Mylord Orville y avait eue. Je n'étais guère curieuse d'entendre répéter ce récit. La suite de notre entretien me prouva, en effet, que je l'avais deviné. J'ignore quel était son dessein, à moins qu'il ne voulût se faire un mérite d'avoir pris ma défense. « Et cependant, continua-t-il, mes excuses ne serviront qu'à mettre au jour ma trop grande crédulité, mon défaut de jugement et de pénétration. Il ne me reste donc qu'à vous demander pardon et espérer qu'à l'avenir... » Dans ce moment, le domestique de Sir Clément ouvrit la porte et j'eus le plaisir de revoir le capitaine, Madame Mirvan et sa fille. Oh, oh !» s'écria le capitaine, « vous voilà logé bien et à votre aise, mais nous allons vous chasser de vos quartiers. Venez, Lucie, Marie, approchez-vous du feu et séchez vos guenilles. Mais, parbleu, où est restée notre vieille Française ?»« Bon Dieu !» m'écriai-je, « Madame Duval n'est-elle pas avec vous ?»« Avec moi ? Non pas, Dieu merci !» J'étais très alarmée de ce qu'elle pouvait être devenue. Et s'il eût dépendu de moi, j'aurais été la chercher moi-même. On envoya de tous côtés des domestiques au-devant d'elle. Le capitaine ne cessa de nous dire qu'il fallait nous tranquilliser et nous en fier au petit maître français qui en prendrait bien soin. Nous fûmes longtemps avant que d'avoir de ses nouvelles et nous demeurâmes seuls dans la chambre. Mon inquiétude augmenta au point que Sir Clément en eut pitié. Il s'offrit d'aller lui-même chercher Madame Duval et il allait se mettre en chemin lorsqu'elle entra, accompagnée de Monsieur Dubois. « Je sortais, madame, lui dit-il, pour vous chercher. »« Vous êtes bien bon, monsieur, de venir lorsque le danger est passé. » Elle était dans un état effroyable, couverte de boue depuis les pieds jusqu'à la tête et dans une colère qu'il est difficile d'exprimer. Nous lui témoignâmes à l'envi l'intérêt que nous prenions à son désastre. Mais le capitaine, fidèle à ses manières grossières, ne la vit pas plus tôt qu'il partit d'un grand éclat de rire. Nos soins et nos attentions l'empêchèrent de prendre garde aux insultes du capitaine, et grâce à son emportement et à sa détresse, il n'était pas difficile de la distraire. Nous la priâmes de nous informer de son accident. « Hélas, dit-elle, après que vous nous eûtes quittés, le pauvre monsieur Dubois... Mais il n'y avait pas de sa faute, car il est tout aussi mal accommodé que moi. » Tous les yeux se tournèrent alors vers M. Dubois, qui, tout tremblant de froid, se tenait au coin du feu pour sécher son habit. Le capitaine rit plus fort que jamais, et Madame Mirvan, faisant l'impossible pour occuper l'attention de Madame Duval, la pria de reprendre le récit de son aventure. Elle continua ainsi. Nous voulûmes nous en retourner par la pluie, et M. Dubois eut l'honnêteté de me soulever dans ses bras pour m'aider à traverser un endroit où il y avait de la boue par-dessus le talon. J'ai payé bien cher cette politesse, car au beau milieu de ces ordures, que n'en étais-je à 50 lieues, je ne sais comment il s'y prit, je ne suis pourtant pas si pesante, mais enfin, le pied lui glissa, je le suppose du moins, et nous tombâmes tous deux à la renverse. Plus nous faisions d'efforts pour nous relever, plus nous enfoncions, et mon négligé de soie est entièrement gâté. Nous sommes encore trop heureux d'être parvenus à nous relever, car vous vous êtes mis peu en peine de nous, et personne n'est venu à notre secours. » Le capitaine, ravi en extase, courait de l'un à l'autre pour jouir en plein de leur détresse. Il poussait des cris de joie, et secouant rudement la main de M. Dubois, il le félicita d'avoir touché terre anglaise. Ensuite, il approcha une chandelle pour mieux examiner Madame Duval, et il déclara que de sa vie, il ne s'était si bien diverti. La fureur de Madame Duval était inexprimable. Elle arracha le chandelier des mains du capitaine, frappa du pied et finit par lui cracher au visage. Ce procédé parut les calmer tous deux. La joie du capitaine se changea en colère et la fureur de Madame Duval en crainte. Il est vrai que le premier s'annonça de manière à faire peur. Il saisit la pauvre femme par les épaules et la secoua avec tant de violence qu'elle cria au secours. « Il n'y avait, ajouta-t-il, que sa vieillesse et sa laideur qui pussent lui épargner un traitement moins délicat. » Monsieur Dubois, qui, jusqu'ici, était demeuré fort tranquille près du feu, se mêla enfin de la partie et éclata en plainte contre le capitaine. On fit peu d'attention à ce qu'il disait, et d'ailleurs, on ne le comprenait pas. Madame Duval se soulagea par un torrent de larmes. Après que nous les eûmes séparés, je la priai de permettre qu'une des servantes de la maison l'aidât à sécher ses habits. Elle y consentit et nous prîmes, pendant cet intervalle, toutes les précautions possibles pour la préserver du froid. Dans cette situation désagréable, nous attendîmes près d'une heure avant qu'on pût trouver une voiture et ensuite nous partîmes dans le même ordre dont on était convenu avant notre accident. Je ferai une visite ce matin à la pauvre Madame Duval pour m'informer de sa santé, dont je serais inquiète si sa constitution ne me paraissait des plus vigoureuses. Adieu, mon cher monsieur, jusqu'à demain. Lettre 17. Suite de la lettre d'Evelina. Vendredi matin, 16 avril. Sir Clement Willoughby va nous rendre visite hier matin et le capitaine Mirvan le retint à dîner. J'eus à passer la journée la plus désagréable. Je me rendis chez Madame Duval comme je le lui avais promis et je la trouvai prenant le déjeuner au lit. Monsieur Dubois était dans sa chambre, ce qui me révolta tellement que j'étais sur le point de me retirer sans faire attention au mauvais effet que ferait une pareille démarche. Madame Duval me rappela aussitôt et rit beaucoup de me voir si peu au fait des mœurs françaises. La conversation ne tarda pas à prendre une tournure plus sérieuse. Madame Duval se déchaîna avec véhémence contre la brutalité barbare de cet insolent capitaine et contre l'horrible grossièreté de la nation anglaise en général. Elle m'annonça qu'elle ferait toute la diligence possible pour se sauver au plus tôt d'un pays aussi peu humanisé. Elle déplora amèrement le sort de son étoffe de lion, protestant qu'elle aurait mieux aimé perdre toute sa garde-robe puisque c'était la première robe de couleur qu'elle portait depuis son deuil. Elle a gagné un gros rhume, et M. Dubois est enroué à ne pouvoir parler. Elle me retint pour la journée entière, qui était destinée, disait-elle, à me faire faire la connaissance de plusieurs personnes de la famille. J'aurais voulu en être dispensée, mais il fallut céder malgré moi. Un tissu de questions de sa part, et les réponses qu'elle m'extorqua, remplirent tout le temps que nous fûmes seuls. Sa curiosité était insatiable. Elle voulait être exactement instruite de chaque événement de ma vie et elle me demanda de même des nouvelles détaillées de toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu. elle eut la dureté de m'entretenir de nouveau de la haine invétérée qu'elle nourrit contre l'unique bienfaiteur que sa fille et sa petite-fille ont trouvé dans leur misère. Son ingratitude excita ma plus vive indignation. J'étais sur le point de fuir sa présence et sa maison si elle ne s'y fût opposée de la manière la plus décisive. Qu'est-ce donc, bon Dieu, qui peut la porter à une injustice aussi criante? Oh, mon père et mon ami, je ne me possède pas lorsqu'elle touche cette matière. » Elle me répéta plusieurs fois qu'elle se proposait de m'amener à Paris, d'autant plus que j'avais grand besoin d'être poli par une éducation française. Elle regretta beaucoup de ce que j'avais été élevé à la campagne, où j'avais pris un air maussade. Elle me recommanda cependant d'avoir bon courage, puisqu'elle avait connu plusieurs jeunes filles, plus gauches encore que moi, qui, après un séjour de peu d'années dans l'étranger, s'étaient parfaitement bien formées. Elle eut la bonté de me citer entre autres, pour exemple, une certaine Miss Polemour, fille d'une vendeuse de chandelles, qui fut envoyée à Paris pour une petite affaire de galanterie, et y avait fait des progrès si étonnants qu'elle allait aujourd'hui de pair avec les femmes de la première distinction. Les parents, auxquels elle me fit l'honneur de me présenter, étaient M. Brankton, son fils et ses deux filles. Le père, qui est neveu de Mme Duval, peut avoir environ 40 ans. Il ne manque pas de bon sens, mais je le crois rempli de préjugés. Il n'a jamais quitté la capitale, et je lui suppose un grand fond de mépris pour tous ceux qui ont vécu en province. Son fils m'a paru moins intelligent, quoique d'un caractère éveillé. Mais sa gaieté ressemble à celle d'un écolier étourdi et tapageur. Il fait peu de cas de son père, à cause de son extrême assiduité au travail et de sa passion pour l'argent. Je doute cependant qu'il ait assez de talent, ni même assez de bonté de cœur, pour atteindre à une sphère plus élevée. Son principal amusement consiste à tourmenter et à ridiculiser ses sœurs, qui, en revanche, le méprisent souverainement. Miss Brankton, l'aînée, est d'une figure assez revenante, mais qui annonce de la fierté, de l'affectation et une humeur peu sociable. Elle hait Londres sans savoir pourquoi, car il est aisé de voir qu'elle n'en est jamais sortie. Miss Polly Brankton peut passer pour jolie. Elle est d'une grande simplicité, légère, tout aussi ignorante que sa sœur, et malgré cela, peut-être d'un bon naturel. Ces bonnes gens eurent besoin d'une grosse demi-heure pour se remettre des fatigues de leur course qu'ils disaient avoir été des plus pénibles. Ils arrivaient à pied de Snow Hill, où M. Brankton tient une boutique d'orfèvrerie. Cette marche avait surtout incommodé les jeunes demoiselles et leur harde s'en était ressentie visiblement. La manière dont Mme Duval me fit faire la connaissance de cette famille eut de quoi me choquer extrêmement. « Voici, dit-elle, mes amis, une parente à laquelle vous ne pensiez sûrement pas. Cet enfant est la fille dont ma pauvre Caroline accoucha après s'être enfuie de chez moi. J'ai découvert seulement depuis peu son existence qu'on m'avait tenue cachée, et jusqu'ici, cette pauvre petite a été privée du seul appui qui lui restât au monde. » Miss Polly. Miss paraît avoir le cœur bien placé et ne doit point être victime de la désobéissance de sa mère. Madame Duval. Aussi ne lui en veux-je pas le moindre mal. Et pour ce qui est de ma pauvre Caroline même, elle est beaucoup moins coupable qu'on ne le pense. Car je suis sûre qu'elle n'eût jamais déserté la maison paternelle sans les mauvais conseils d'un certain vieux curé. Miss Polly. Parlons d'autre chose, ma tante. Notre conversation semble affliger cette jeune demoiselle. On se jeta alors sur notre âge, sur nos tailles, nos ajustements, sur les spectacles. Tous ces lieux communs furent rebattus avec la plus grande sagacité. Mais jugez de ma douleur lorsque je compris ensuite, par quelques paroles échappées à Madame Duval, qu'elle était occupée à instruire M. Brankton des détails les plus secrets de mes affaires. Ce récit attira la curiosité de l'aînée des demoiselles Brankton. La cadette et le fils restèrent avec moi, vraisemblablement pour me distraire. Miss Brankton revint aussitôt vers nous en disant à sa sœur « Imagine-toi, Polly, Miss n'a jamais vu son père. » « Et comment cela, Miss ? » s'écria l'autre. « N'étiez-vous pas tentée de le connaître ?» Ceci en était trop. Je me levai promptement et je me sauvai de la chambre. Je regrettai bientôt ce mouvement de vivacité. Les deux sœurs me suivirent et tâchèrent de me consoler. je demandai avec instance d'être laissée seule. Dès que je fus rentrée, Madame Duval me demanda ce que j'avais, pourquoi je l'avais quittée. J'allais me retirer de nouveau, ne sachant que répondre. « Cette femme est insupportable. Elle me met d'abord dans les embarras les plus cruels, et puis elle est surprise de ma sensibilité. » Le jeune Branton, entre autres questions spirituelles, me demanda si j'avais vu la tour, l'église Saint-Paul, l'opéra. Ses sœurs n'avaient aucune idée de ce spectacle et l'on proposa d'y aller tous ensemble à la première occasion. Je voulus éviter de les contredire et je me bornai à leur répondre que je n'étais point la maîtresse de mon temps puisque je dépendais entièrement de Madame Mirvan durant mon séjour à Londres. Je suis très décidée à ne pas être de cette partie s'il m'est possible de l'échapper. Enfin, je pris congé de Madame Duval. Elle me pria de revenir le lendemain. Les Branton m'invitèrent d'aller les voir à Snow Hill, ce qui, je suppose, n'arrivera pas de sitôt. Du moins, je souhaite que notre liaison soit bientôt rompue. Si tous mes parents ressemblent à ceux qui m'ont été présentés aujourd'hui, j'avoue que je ne me sens pas beaucoup d'empressement à briguer l'honneur de leur connaissance. Lettre 18. Suite de la lettre d'Evelina. Je n'eus pas plus tôt achevé ma lettre de ce matin que j'entendis frapper fortement à la porte. Je descendis et devinai qui je trouvais dans la salle des visites. Mylord d'Orville. Il était seul car la famille ne s'était pas encore assemblée pour le déjeuner. Il s'informa de ma santé, de celle de Madame et de Miss Mirvan. J'étais surprise du degré d'intérêt qu'il semblait attacher à ces questions, mais j'en sus bientôt le motif. Il venait d'être informé de l'accident qui nous était arrivé à Ranelagh. Il m'en témoigna son inquiétude dans les termes les plus polis et il regretta d'avoir manqué l'occasion de nous offrir ses services. « Mais, ajouta-t-il, Sir Clement Willoughby, si je ne me trompe, a été plus heureux que moi. » Je lui répondis qu'il avait été avec le capitaine Mirvan. « On m'a dit qu'il était de votre parti, madame. » J'espère que cet étourdi ne se sera pas vanté d'avoir borné ses secours à moi seul. En attendant, Mylord d'Orville ne pressa point ce sujet. Il me dit qu'il espérait que cette fâcheuse aventure ne m'empêcherait pas de continuer à embellir Ranelagh de ma présence. Le temps de notre séjour à Londres est sur le point d'expirer, Mylord. Comment, madame, comptez-vous de nous quitter si vite? Oui, Mylord, nous nous sommes déjà arrêtés plus que nous ne pensions. Avez-vous donc un goût si décidé pour la campagne? Nous n'avons fait le voyage que pour venir à la rencontre du capitaine Mirvan. Et mise en ville, ne s'intéressait-elle pas un peu à tant de personnes qui seront affligées de son départ? Mylord, je suis sûre que vous ne vous imaginez pas. J'en demeurai là, et certes, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mon ridicule embarras m'en attira un second. Mylord d'Orville s'avança vers moi et, me prenant la main, il me dit « Je m'imagine qu'il suffit d'avoir vu une fois Miss Anville pour en conserver un souvenir qui ne s'efface pas aisément. » Un tel compliment, dans la bouche du Lord, me coupa entièrement la parole. Je sentis que je changeais de visage. Je ne dis mot et je baissai les yeux. Je me remis pourtant d'abord et, en retirant ma main, je lui dis que j'allais voir si Madame Mirvan était habillée. Il ne me retint point et je sortis. Je rencontrai toute la famille sur l'escalier et je rentrai avec eux pour déjeuner. C'était le moment de lui faire des excuses de ma conduite du ridotto et je suis fâchée de l'avoir laissé échapper. Mais, à dire vrai, cette affaire ne me revint point dans l'esprit pendant ce court tête-à-tête. Si cependant je retrouve jamais une occasion aussi favorable, je la mettrai sûrement à profit. L'idée de passer à ses yeux pour sotte ou pour présomptueuse me chagrine véritablement et je me veux bien du mal d'y avoir donné lieu en quelque façon par ma propre faute. Mais que dites-vous, monsieur, de ce compliment? Ne vous paraît-il pas singulier? Je ne m'y attendais pas de sa part. Mais la galanterie est, je crois, commune à tous les hommes, quelle que soit d'ailleurs leur bonne qualité. Notre déjeuner fut le plus délicieux de tous les repas que nous ayons faits ici depuis notre arrivée. Si cette Madame Duval n'y était pas, je commencerais à me plaire à Londres. La conversation du Lord d'Orville est des plus agréables. Ses manières douces, polies et modestes inspirent la confiance et lui assurent une estime générale. Loin de se reposer sur son mérite, il cherche toujours à plaire dans les sociétés. Et, quoique sûr d'un succès constant, il n'en tire pas la moindre vanité. Qu'il diffère en cela de la plupart des jeunes gens d'ici, qui, sans atteindre à ses perfections, affichent des airs de prétention insupportables. Je voudrais montrer, cher monsieur, que vous fissiez la connaissance de ce Lord Orville. Je suis persuadée que vous l'aimeriez. Il est le seul à Londres pour qui j'ai été tentée de faire un pareil souhait. Quelquefois, je me représente que, lorsque l'âge aura ralenti sa vivacité et qu'il mènera une vie moins dissipée, alors il pourra bien ressembler à l'homme que j'aime et que j'honore le plus. Sa douceur actuelle, sa politesse, une modeste défiance de lui-même semblent présager pour l'avenir cette bienveillance, cette dignité et cette bonté de cœur que j'admire en vous. Mais je m'étends trop sur ce sujet. Après que Mylord se fut retiré, sa visite fut bien courte, je me préparai, quoique avec répugnance, à retourner chez Madame Duval. Madame Mirvan eut la bonté de m'éviter cet ennui. Elle proposa au capitaine de la faire prier à dîner. Il y consentit, étant d'ailleurs bien aise, disait-il, de lui demander des nouvelles de son négligé de soie. Elle a accepté l'invitation et on l'attend à tout moment. Je ne comprends pas qu'une femme, qui est maîtresse absolue de son temps, de ses biens et de ses volontés, puisse consentir à s'exposer de son plein gré aux incivilités d'un homme qui a visiblement pris à tâche de se jouer d'elle. Mais elle est peu connue ici, et je suppose qu'elle ne sait pas trop comment s'occuper. Que ne dois-je pas à Madame Mirvan de ce que son amitié veut bien me sacrifier un temps qu'elle passera très mal elle-même? Chaque querelle que suscite son indigne mari lui prépare de nouveaux chagrins. Cette considération m'a engagée aussi à la prier de ne point inviter Madame Duval. Mais elle m'a répondu qu'elle ne souffrirait pas que je passasse tout mon temps loin d'elle. Cette excellente dame a pour moi des bontés de mère. Lettre 19. Suite de la lettre d'Evelina. Samedi matin, 17 avril. Madame Duval nous amena Monsieur Dubois. Je m'étonne qu'elle s'avise de l'introduire dans une maison où il est si mal reçu. Je trouve tout aussi singulier qu'elle ne sorte jamais sans lui. Cependant, je n'aurais peut-être point fait cette remarque si le capitaine Mirvan ne me raillait sans cesse sur le damoiseau de ma grand-maman. Madame Mirvan les reçut tous deux avec l'honnêteté qui lui est propre. Mais le capitaine assaillit tout de suite Madame Duval de la manière la plus insultante. « Eh bien, madame, lui dit-il, vous qui avez vu le monde, expliquez-moi un peu ce que vous préférez, la chambre chaude à Ranelagh ou le bain froid que vous prîtes ensuite. Mais certes, vous avez un air si bien portant que je vous conseille de redoubler la dose. » Madame Duval, « Ma foi, monsieur, on ne vous demande pas vos conseils et vous pouvez les garder pour vous. D'ailleurs, ne vous en déplaise, il me semble que ce n'est pas une bagatelle que d'être éclaboussé, d'attraper un rhume et d'abîmer toutes ses hardes. » Le capitaine, « Éclaboussé, dites-vous? Et n'est-ce que cela? Je vous croyais trempé de la tête aux pieds. Allons donc, ne faites pas la petite bouche, ce serait gâter le compte. Souvenez-vous que vous étiez percé jusqu'à la moelle des os. Par la sangbleu, j'en rirai toute ma vie. La pauvre dame laissée à l'abandon et assaisonnée de la sorte. Et puis, monsieur le français à côté de vous, mouillé comme un rat. Madame Duval, plus notre embarras était grand, plus vous avez eu tort de n'être pas venue à notre secours. Vous saviez très bien où nous étions et je vous ai entendu rire à gorge déployée le moment où cet accident arriva. D'ailleurs, il n'est que trop vraisemblable que c'est vous qui nous avez renversés, car M. Dubois m'a dit que sans un croque-en-jambe qu'on lui a donné, il ne serait sûrement pas tombé. Le capitaine jeta des éclats de rire si immodérés que je commençais à croire cette imputation fondée. Mais il n'y a absolument le fait. Madame Duval, pourquoi donc n'êtes-vous pas venue nous secourir? Le capitaine, moi? Croyez-vous que j'avais oublié que je suis un Anglais, un vilain et brutal Anglais? Madame Duval, fort bien, monsieur, fort bien. mais j'étais une sorte d'attendre mieux de vous. Cela ressemble au reste de la pièce, à l'offre gracieuse que vous me fîtes de me faire sauter la portière la première fois que je vous vis. Mais ce qui est très certain, c'est que je suis décidée à ne plus vous choisir pour me conduire à Ranelagh. Car si j'avais eu le malheur de tomber sous les chevaux, je parie que vous n'eussiez pas bougé d'un pas pour me sauver la vie. Le capitaine. Je vous réponds bien que non, madame, pas pour tout au monde. Je connais trop la bonne opinion que vous avez de votre nation pour vous faire l'affront de croire qu'un Français puisse avoir besoin de moi quand il est question de vous défendre. Madame Duval. Bravo, monsieur, continuez, cela est digne de vous. Si le pauvre Dubois n'avait pas partagé avec moi ce fâcheux accident, je n'aurais eu besoin des secours de personne. Le capitaine. Je vous promets que les miens vous eussent laissé en plein repos. Je sais mieux garder mon rang. D'ailleurs, il ne s'agissait que de vous plonger un tant soit peu. Vous pouviez arranger cela à vous deux, et j'aurais été de trop. Madame Duval. Je pense que vous cherchez à me faire croire que monsieur m'a joué ce tour à dessein. Le capitaine. Mais très certainement, qui en douterait? Un Français faire une maladresse? Vous n'y pensez pas, madame. Passe encore pour un rustre anglais. À quoi bon tous les sauts et les cabrioles de vos maîtres de danse si vous ne savez pas seulement tenir l'équilibre? Pendant ce dialogue, Sir Clement Willoughby se présenta dans la salle. Il affecta de fréquenter la maison sur le pied d'une ancienne connaissance. Et ces mêmes airs de familiarité, dont je suis si choquée, servent précisément à le mettre bien dans l'esprit du capitaine, dont il a le talent d'étudier tous les caprices. Après l'avoir accueilli avec beaucoup d'amitié, M. Mirvan lui dit « Vous venez à point nommé, mon garçon, pour arranger un petit différend entre madame et moi. Vous imagineriez-vous que le bain que monsieur lui administra l'autre soir n'a pas été de son goût ?» J'aurais cru, répondit Sir Clément avec un grand sérieux, que l'amitié qui subsiste entre monsieur et madame eût dû prévenir tout événement fâcheux. Mais peut-être ne se sont-ils pas entendus d'avance. Et dans ce cas, monsieur a commis une petite inattention, car selon mon avis, il aurait dû s'informer auparavant de l'espèce de terrain auquel madame donne la préférence. À merveille, monsieur, s'écria madame Duval, vous voudriez nous mettre aux prises. Mais on ne se joue pas de moi à si peu de frais. Épargnez vos peines, j'ai déjà pénétré votre intention. » Monsieur Dubois, qui était parvenu à démêler le sujet de la conversation, entreprit de plaider sa cause avec beaucoup de solennité. Il espérait, dit-il, que la compagnie conviendrait du moins qu'il n'appartenait point à une nation de sauvages et qu'ainsi il était incapable d'offenser une dame de propos délibérés, qu'au contraire, en tâchant, comme il était de son devoir, de sauver madame Duval, il en avait pâti lui-même, de façon à s'en ressentir longtemps. Puis il ajouta, avec une physionomie allongée, qu'il se flattait qu'on ne le taxerait pas de prévention s'il soutenait que cette malheureuse chute ne devait être attribuée qu'à un choc violent qu'il avait reçu de quelques personnes mal intentionnées, qu'il ne déciderait pas cependant si c'était dans le dessein de faire tomber sa dame, ou seulement pour éclabousser ses habits. Cette contestation fut enfin terminée par madame Mirvan, qui nous proposa d'aller voir le cabinet des curiosités de Cox. On fut bientôt d'accord et on fit arrêter des voitures. Ce cabinet offre des choses surprenantes et d'une grande richesse. Il m'intéressa peu, cependant. C'est une pure parade, mais il est vrai qu'elle tient du merveilleux. Pendant que nous faisions le tour de la salle, Sir Clement Willoughby me demanda mon sentiment sur ce brillant spectacle. Je lui répondis que je le trouvais joli et même ingénieux, mais que je sentais malgré cela un certain vide dont je ne savais pas trop rendre raison. « Supérieurement bien répondu, s'écria-t-il. Vous avez défini à la lettre mes propres sentiments, mais avec une finesse à laquelle je n'aurais jamais pu atteindre. » J'étais bien sûr que votre goût est trop bon pour pouvoir être flatté de ce qui ne parle pas à l'esprit. Pardieu, s'écria madame Duval, vous êtes bien difficile, vous deux. Si ceci n'est pas de votre goût, que pourrez-vous donc trouver de beau? C'est le coup d'œil le plus grand, le plus brillant, le plus exquis que j'ai encore vu en Angleterre. Je suppose, reprit le capitaine en ricanant, que cela est dans votre goût français. Cela y ressemble assez, car ce ne sont que de pures babioles. Mais dites-moi, mon ami, ajouta-t-il en s'adressant à celui qui nous expliquait ses curiosités, de quelle utilité est tout ceci? Je ne suis pas assez sorcier pour le deviner. En effet, répliqua madame Duval avec dédain, comme si chaque chose devait avoir son utilité. N'admirez-vous pas, monsieur, répondit notre conducteur, l'industrie du mécanicien, la beauté du travail? Toute personne de goût peut aisément apercevoir l'utilité d'ouvrages aussi extraordinaires. Votre personne de goût doit être, dit le capitaine, un fat ou un français, ce qui revient à peu près au même. Nous étions occupés alors à examiner une pomme de pin qui renfermait un nid d'oiseaux chantant. Ah ! S'écria madame Duval, voilà qui est plus joli que tout le reste. Je n'ai rien vu de plus élégant dans tous mes voyages. N'as-tu pas, mon ami, dit le capitaine au conducteur, d'autres pommes que celles-là? Comment, monsieur? C'est que je te prierai de m'en donner sans oiseaux, car vois-tu, je ne suis pas français et j'aime les choses solides. Ce spectacle finit par un concert de musique mécanique. Je ne saurais expliquer comment elle fut exécutée, mais l'effet en était charmant. Madame Duval était ravie en extase et le capitaine la contrefaisait par des contorsions ridicules qui attirèrent l'attention de toute l'assemblée. Pendant qu'on exécuta l'antienne d'un couronnement, madame Duval affectait de battre la mesure et d'exprimer sa satisfaction par différents gestes. Le capitaine demanda au plus vite des odeurs. Une dame eut la politesse de lui présenter son flacon et il n'eut rien de plus pressé que de le mettre sous le nez de la pauvre madame Duval. La trop grande quantité qu'elle en prit par distraction lui fit jeter de hauts cris. Dès qu'elle fut remise, elle éclata comme de coutume en invectives. Mais le capitaine protesta qu'il n'avait pris cette précaution que par pure amitié, les transports de la dame lui ayant fait craindre qu'elle ne se trouve à mal. Cette excuse, loin de l'apaiser, amena une forte querelle qui n'eut d'autre effet que de divertir le capitaine. Il est toujours si bruyant en public que très souvent nous avons honte de lui appartenir. Madame Duval, malgré sa colère, ne fit aucune difficulté de venir dîner avec nous. Madame Mirvan avait retenu des places au théâtre de Drury Lane et elle l'invita poliment d'être de la partie. Son rhume l'empêcha d'accepter la proposition. Je suis fâché de son indisposition, mais je ne regrette point le refus qu'elle fit de nous accompagner. Sans oser la juger sévèrement, je dois avouer pourtant qu'elle n'est point de la classe des personnes auxquelles je puis donner mon approbation. Lettre 20. Continuation de la lettre d'Evelina. Nos places étaient prises sur le devant d'une loge de côté. Sœur Clément Willoughby, qui savait que nous irions au spectacle, nous attendit à la porte pour nous présenter la main. Dès que nous fûmes entrés, Mylord Orville, que j'avais déjà remarqué dans le balcon, vint nous trouver. Il nous fit l'honneur de passer toute la soirée dans notre loge. Miss Mirvan et moi, nous nous félicitâmes de l'absence de madame Duval et nous nous flattâmes du moins que la conversation ne serait pas interrompue par les querelles du capitaine. Mais je vis bientôt que j'avais peu gagné. Loin d'oser parler, je ne savais de quel côté tourner les yeux. On jouait amour pour amour. Quoique cette pièce soit écrite agréablement et avec esprit, je ne compte pourtant pas de la revoir. Elle manque entièrement de délicatesse, pour ne pas dire davantage. Miss Mirvan et moi fûmes décontenancés presque à chaque scène. Nous n'osions risquer la moindre remarque, ni même écouter celle qu'on faisait autour de nous. J'en étais d'autant plus fâchée que Mylord Orville était d'une humeur charmante. J'étais bien aise de voir la fin de cette pièce. J'espérais que je pourrais respirer plus librement. Mais à peine la toile fut-elle baissée que je vis entrer dans la loge M. Lovell, cet homme qui, par ses impertinences, m'avait tant tourmenté au bal où je vis Mylord Orville pour la première fois. Je voulais éviter sa conversation et je me tournai vers Miss Mirvan. Je ne pus cependant lui échapper et dès qu'il eut salué le Lord Orville et Sir Clément, qui le reçurent froidement, il se pencha de mon côté et me dit « Madame s'est toujours bien portée depuis que j'ai eu l'honneur, je ne dirai pas de danser avec elle, mais de la voir danser. » Son ton de complaisance ne me laissa pas de doute que ce compliment ne fût préparé pour servir de représailles à mes procédés le jour du bal. Je n'y répondis point et je me contentai d'une légère inclination de tête. Après un moment de silence, il m'apostropha de nouveau d'un air nonchalant et familier. « Madame a-t-elle été ci-devant à Londres ?»«
Non, monsieur. »«
Je m'en doutais bien. Tout doit vous y paraître bien neuf. Nos usages, nos mœurs, nos étiquettes ressemblent peu à celles de province. Je suppose d'ailleurs que votre séjour est à quelque distance de la capitale. » J'étais outré de ces propos ironiques et je les passais entièrement sous silence. Que ne parlais-je plutôt ? Mon embarras ne fit que l'encourager et le divertir. Il continua avec la même affectation. « L'air que nous respirons ici, quoique différent de celui auquel vous êtes accoutumée, madame, est-il convenable à votre santé ?»
Mylord Orville, monsieur Lovell, avec de bons yeux, vous eussiez pu vous épargner cette question.
Monsieur Lovell, ah, mylord, si la santé était toujours ce qui fait le teint des dames, sans doute mes yeux auraient pu porter un jugement infaillible. Mais...
Madame Mirvan,
de grâce, monsieur, point de ces mots à double entente. Vous pouvez avoir réussi à relever l'éclat du teint de Miss Anville, mais vous ne parviendrez pas à le rendre suspect.
Monsieur Lovell,
vous me faites tort, madame. Je ne prétends pas dire que le rouge est le seul substitut de la santé. Il y a tant de causes qui produisent le même effet. Par exemple, un mouvement de colère, de fausse honte. Tout cela ne peut-il pas contribuer à rehausser le teint ?
Le capitaine.
Des causes comme celle-là, il faut les chercher chez des personnes qui en sont susceptibles.
Sir Clément.
La remarque est juste. Le teint naturel n'a rien de commun avec la fougue passagère des passions, ni avec toute autre cause accidentelle.
Le capitaine.
Non, certes, car tenez, tel que me voici, je n'ai pas plus de couleur qu'un autre. Et cependant, si vous me mettiez en colère, vous me verriez par la sangbleu plus rouge que toutes ces Jézabelles plâtrées qui s'assemblent ici.
Mylord Orville,
si je ne me trompe, il n'est pas si difficile de distinguer le teint naturel de celui qui est emprunté. L'un offre des nuances, l'autre, trop uniforme, manque de cette vivacité, de cet éclat, de ce je ne sais quoi qu'on a peine à définir.
Sir Clément,
Mylord est généralement reconnu pour connaisseur en beauté.
Monsieur Orville,
et vous, Sir Clément, pour un enthousiaste.
Sir Clément,
j'en suis fier réellement. Dans une telle affaire et devant de tels objets, il suffit de ne pas être aveugle pour être enthousiaste.
Le capitaine,
trêve de tout ce bavardage. Les femmes ne sont que trop vaines déjà, sans qu'il soit besoin de les enorgueillir davantage.
Sir Clément,
obéissance aux ordres de l'officier commandant. Choisissons un autre sujet. Vous êtes-vous bien amusées, mesdames, à cette pièce ?
Madame Mirvan,
elle est assez amusante, ce n'est pas là son défaut. J'y ai trouvé des tâches que je voudrais en voir effacées.
Mylord Orville,
je me serais fait fort de répondre à la place de ces dames. Cette pièce n'est pas d'un genre à mériter leur suffrage.
Le capitaine,
et pourquoi non ? N'y a-t-il peut-être pas assez de sentiments ?
Pour moi, je soutiens que c'est une des meilleures comédies de notre théâtre. Il y a plus d'esprit dans une seule scène que dans toutes les pièces nouvelles ensemble.
Monsieur Lovell,
quant à moi, je fais rarement attention aux acteurs. On a assez d'ouvrages à chercher ses connaissances et il ne reste guère de temps pour songer au théâtre. Quelle est, je vous prie, la pièce qu'on vient de représenter ?
Le capitaine.
Comment, diable, vous venez au spectacle sans savoir ce qu'on joue ?
Monsieur Lovell, cela m'arrive à tout moment. Je ne lis point les affiches et je ne viens ici que pour voir mes amis et pour montrer que je suis encore en vie.
Le capitaine. Ainsi, il vous en coûte 5 shillings par jour pour montrer au public que vous êtes en vie. Ma foi, dussent tous mes amis me croire mort et enterré, je me garderais bien de les désabuser à un tel prix. Au reste, apprenez de moi une bonne maxime. Ceux qui auront quelque chose à recevoir de vous sauront bien vous trouver. Vous dites donc que vous avez passé ici toute la soirée sans savoir ce qu'on jouait ?
Monsieur Lovell, Une comédie demande tant d'attention qu'il est très difficile de la suivre sans s'endormir. D'ailleurs, c'est une heure si incommode, on y vient fatigué. Les repas, le vin, les affaires domestiques, les études, tout cela vous a déjà cassé la tête dans la journée et on doit se tuer encore pendant la soirée à écouter avec attention une pièce de théâtre. En vérité, la chose est impossible. Mais je crois avoir une affiche sur moi. Voyons. Oui, la voici. Ah ah ! Amour pour amour ! Et comment pouvais-je être si stupide ?
Le capitaine.
Oh, qu'à cela ne tienne, monsieur. Mais, par ma foi, voilà une des meilleures farces que j'ai entendues de longtemps. Venir au spectacle sans savoir ce qu'on joue.
Et si, au lieu d'une musique d'opéra, on vous servait un concert de racleur, vous y donneriez du bec sans vous en apercevoir.
Cette conversation fut poussée avec aigreur de part et d'autre. Quelques observations sur les caractères de la pièce fournirent une ample matière au sarcasme. J'en eus ma part. Monsieur Lovell me fit l'honneur de me demander ce que je pensais du rôle d'une jeune villageoise qui avait paru sous le nom de Miss Prue. Je lui fis une réponse assez indifférente et Sir Clément observa qu'un caractère comme celui-là était peu digne de mon attention.
C'est cependant, reprit le Fat, le premier personnage de la pièce. Il est bien marqué, vraiment original. Des mœurs villageoises, l'ignorance rustique d'après nature. Il est de main de maître sur mon honneur.
Mylord Orville eut la complaisance de se charger de ma défense, et il s'en acquitta avec tant de succès que M. Lovell prit le parti de se taire et de se glisser hors de la loge dès qu'on eut commencé la petite pièce. Les propos insolents de cet homme me sont insupportables. Puissais-je ne le revoir jamais? Je l'aurais méprisé comme il le mérite s'il m'avait laissé tranquille. Mais puisque je vois qu'il me porte rancune de ce qu'il appelle mes mauvais traitements, je commence à le craindre. Madame Mirvan me donna en chemin une nouvelle inquiétude. Elle me dit que le ressentiment de M. Lovell pourrait aisément donner lieu à un duel s'il avait autant de courage que de colère. Cette idée me fit trembler. Cependant, un homme aussi faible et aussi frivole pourrait-il être vindicatif? Je pense qu'il se contentera de décharger sa bile contre moi. Mais il ne jouira pas longtemps de cette satisfaction quand nous partirons incessamment. Miss Mirvan m'a raconté que, pendant que M. Lovell me parlait avec si peu de ménagement, Mylord Orville le regardait d'un air de pitié. Cela me tranquillise beaucoup. Il devrait exister ici un code des lois et coutumes à la mode, à l'usage des jeunes étrangers qui fréquentent, pour la première fois, les endroits publics. Nous allons ce soir à l'opéra, où j'espère bien me divertir. C'est la même partie que hier. Lord Orville en sera. Il a promis qu'il viendrait nous joindre.